Les informations, Margot Delpierre.
Bonjour à tous. Les ELCO vont bientôt disparaître. Les cours facultatifs en langues étrangères et dispensés par des enseignants venus d'autres pays seront supprimés à la rentrée de septembre. Annoncé hier d'Emmanuel Macron, le président veut lutter contre le séparatisme islamiste. Les Iraniens vont élire un nouveau parlement vendredi, un scrutin décisif. Voter est un devoir religieux, a expliqué hier le guide suprême. Reportage de nos envoyés spéciaux à Téhéran. Sa joie a été de courte durée. L'homme d'affaires turc Osman Kavala, tout juste acquitté hier, a été arrêté peu après dans une autre affaire. C'est cynique et cruel selon Amnesty International. L'ONG demande sa libération immédiate. Revenons d'abord sur ce rapport inquiétant publié aujourd'hui dans la revue médicale britannique The Lancet. 40 experts mondiaux de la santé de l'enfant et de l'adolescent ont passé au crible 180 pays. Et conclusion, s'alarment les Nations Unies, aucun pays ne protège de façon appropriée la santé des enfants. La situation est d'autant plus critique qu'aux problèmes de santé habituels viendront s'ajouter tous ceux liés au changement climatique, Daniel Messager.
Les experts sont très clairs, les émissions excessives de carbone provenant de façon disproportionnée des pays les plus riches sont une menace pour l'avenir de tous les enfants de la planète. Si le réchauffement dépasse les 4 degrés d'ici 2100, les conséquences seront dévastatrices pour les enfants victimes de malnutrition et de maladies comme le paludisme ou la dengue. Aujourd'hui, sur 180 pays, les chercheurs ont placé en tête des pays où les enfants ont les meilleures chances de survie la Norvège, les Pays-Bas, les pires étant le Tchad ou la Somalie. Mais si l'on prend en compte les émissions de CO2 par habitant, la Norvège se retrouve 156e et les Pays-Bas 160e, émettant actuellement 210% de CO2 de plus par habitant que la cible fixée pour 2030. Les experts ont également pointé une autre menace plus insidieuse, le marketing nocif de l'industrie alimentaire, qui pousse les jeunes à consommer des produits gras, salés. L'obésité chez les adolescents a ainsi été multipliée par 11 en 40 ans, avec aujourd'hui dans le monde 124 millions d'enfants et d'adolescents obèses.
Daniel Messager. Après des années de débats, un premier réacteur de Fessenheim s'arrêtera samedi. Le décret confirmant l'arrêt total et définitif des réacteurs de la centrale nucléaire paraît aujourd'hui au journal officiel. Une première étape avant la longue procédure de démantèlement. La centrale avait été mise en service en 1977. C'est la doyenne des centrales françaises en activité. Toujours dans le Haut-Rhin, Emmanuel Macron a annoncé hier en visite à Mulhouse des mesures pour lutter contre ce qu'il appelle le séparatisme religieux plutôt que le communautarisme. Le chef de l'État a plaidé pour des actions contre l'influence étrangère avec une loi sur la transparence des financements du culte et la fin des imams détachés envoyés par d'autres pays, mais aussi la fin dès la rentrée de septembre prochain des contestés enseignements de langue et culture d'origine. Vous nous expliquez, Delphine Evenou.
1 à 3 heures par semaine pour garder le lien avec ses origines. Quand la France signe dans les années 70-80 des conventions bilatérales avec 9 pays, on pense alors que les enfants d'immigrés algériens, tunisiens, italiens ou portugais vont sans doute rentrer dans le pays de leurs parents. Au fur et à mesure, la philosophie changera. Aujourd'hui, 80 000 élèves en bénéficient, essentiellement à l'école primaire. Pour animer ce temps périscolaire, des enseignants étrangers désignés par leur gouvernement, ils ne sont pas toujours francophones, le contenu des activités proposées n'est pas non plus contrôlé par l'éducation nationale, ce qui fait un peu grincer des dents. Les détracteurs de ce dispositif prônent un basculement vers le système plus intégré des sections internationales, comme Emmanuel Macron hier, donc, comme nous l'avons lancé dès 2016, a raillé dans la foulée l'ancienne ministre Najat Vallaud-Belkacem, qui rappelle que le Maroc et le Portugal ont dit oui il y a déjà 3 ans.
L'artiste russe Piotr Pavlensky et sa compagne Alexandra de Tadeo ont été mis en examen hier par un juge d'instruction et placés sous contrôle judiciaire. Ils sont au cœur du scandale des vidéos à caractère sexuel ayant poussé Benjamin Griveaux à renoncer à briguer la mairie de Paris. Le couple est soupçonné notamment d'atteinte à l'intimité de la vie privée. La tomate est le légume préféré des Français. Les ménages en consomment 14 kilos par an. Un vrai commerce. Alors mieux vaut éviter les pertes importantes pour la production française. Dans le Finistère, un site est contaminé par un virus végétal, c'est confirmé depuis lundi. Un virus sans danger pour l'homme et les animaux, mais qui altère l'esthétique et le goût des tomates. Jacques Rouchausset, président de Légumes de France, surveille la situation.
Nous allons mettre pour la fin de la semaine un plan de surveillance en place, de manière à pouvoir faire le recensement sur l'ensemble des exploitations de notre territoire. et qui est un mode d'observation, un mode de fiche également réflexe au niveau du producteur, mais pas que au niveau des producteurs, au niveau des salariés agricoles, au niveau des pépiniéristes, au niveau des fournisseurs agricoles, tout l'environnement qui va tourner autour de la serre de tomates, de manière à pouvoir avoir des actions préventives et pouvoir détecter le cas où une suspicion de ce virus. Les mesures de biosécurité vont s'appliquer. Ces mesures de biosécurité, c'est l'isolement des matériels, c'est la désinfection, c'est la gestion également des résidus par l'incinération de l'ensemble des déchets. Et c'est uniquement par l'incinération qu'on pourra détruire le virus. On sait d'où vient le virus. On a le virus qui vient naturellement de Hollande. L'Allemagne a été contaminée l'an dernier. L'Allemagne s'en est sortie également. Donc nous sommes en relation avec les Allemands, nous sommes en relation avec les Hollandais pour voir comment on peut mieux maîtriser ensemble ce virus.
Jacques Rouchausset, il répondait à Juliette Seyer. Après 2 semaines en quarantaine au Japon, confinés dans leur cabine, plusieurs centaines de passagers du Diamond Princess quittent le bateau aujourd'hui. 540 cas de contamination au coronavirus ont été recensés sur le paquebot. Coronavirus qui a fait plus de 2000 morts en Chine. Voter est un devoir religieux. Déclaration hier du guide suprême iranien. Il a appelé ses concitoyens à se rendre aux urnes vendredi pour les élections législatives. Il faut renforcer la République islamique face à la propagande de ses ennemis, selon lui. Une allusion aux États-Unis qui ont éliminé début janvier le général Soleimani. Ces élections sont un test important pour le président iranien, Hassan Rouhani. La coalition qui le soutient, composée de modérés et de réformateurs, semble menacée, Valérie Crova.
À Téhéran, les portraits en hommage à Qassem Soleimani sont plus nombreux que les affiches des candidats aux législatives. Les habitants de la capitale iranienne boudent la campagne électorale, désabusés par la politique menée par leurs dirigeants. Vahid Toutounchi, réformateur, se présente sur une liste dans le centre de Téhéran.
Les dernières enquêtes que j'ai entendues montrent de 24 à 30% de participation. Ce n'est pas bon, mais j'espère que ça va évoluer dans les prochains jours.
Une faible participation profite traditionnellement aux conservateurs et ce sont les plus durs qui dominent le puissant conseil des gardiens de la Constitution. C'est lui qui valide les candidatures. Il en a rejeté plus de 7000 sur 14000, en majorité des modérés et des réformateurs. De là à dire que l'élection est tronquée, il n'y a qu'un pas que ne franchit pas cet autre candidat réformateur.
Je ne peux pas répondre par oui ou par non à cette question, mais il y a de nombreuses limites à la démocratie iranienne, c'est clair.
Les ultra-conservateurs espèrent voir leur position se renforcer dans le futur parlement iranien à un an de la présidentielle.
Valérie Crova avec Laurent Macchietti, envoyé spécial de France Culture en Iran. En Turquie, un retournement de situation. L'homme d'affaires Osman Kavala, figure majeure de la société civile, tout juste acquitté hier dans un procès, a été arrêté dans une autre affaire. Une enquête liée au coup d'État manqué du 15 juillet 2016. Les explications à Istanbul de Cerise Sudri-Ledu.
La joie aurait été de courte durée. Sur la petite aire d'autoroute de Karbet, près d'Istanbul, la police devait relâcher Osman Kavala et ses proches et soutiens l'attendaient de pied ferme. C'était le dernier prisonnier du procès de Gezi et il comptait bien célébrer sa libération. Osman Kavala a en effet passé plus de 2 ans derrière les barreaux, poursuivi dans un procès devenu l'emblème des pressions contre la société civile en Turquie. Mais Osman Kavala n'est jamais arrivé. L'homme d'affaires a été de nouveau placé en garde à vue et conduit au commissariat. Le procureur en chef d'Istanbul a en effet publié un mandat d'arrêt contre lui, indiquant qu'il devait être interrogé sur son implication dans le coup d'État manqué du 15 juillet 2016. Le dossier Gezi s'est donc refermé avec l'acquittement de la quasi-totalité des accusés, respectant également une décision de la Cour européenne des droits de l'homme qui avait demandé la libération immédiate d'Osman Kavala. Mais un autre dossier s'est donc ouvert pour l'homme d'affaires qui doit cette fois-ci faire face à de nouvelles accusations. Sous le choc, les soutiens d'Osman Kavala et les associations ont dénoncé pêle-mêle une justice aux ordres ou une façon particulièrement tordue pour le gouvernement turc de respecter la décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Mais dans les médias turcs, qui sont de leur grande majorité pro-gouvernementaux, on s'est félicité de la réarrestation de celui qui, disent-ils, aurait tenté par tous les moyens de renverser le gouvernement en place.
En France, le temps va légèrement s'améliorer aujourd'hui dans le nord du pays. Le soleil sera encore au rendez-vous près de la Méditerranée. Ailleurs, le ciel restera encombré. Il fait en ce moment 5 degrés à Lille, 6 à Strasbourg, 7 à Paris, 8 à Lyon, 11 à Perpignan et 12 degrés à Ajaccio.